Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va voyager, mais en même temps, on va aussi parler de rachat d'actions. Bonsoir Jean-François Rial.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, PDG, cofondateur de Voyageurs du Monde, le spécialiste du voyage sur mesure et voyage d'aventure. Et du vélo, on verra ça, parce que là, vous avez publié aujourd'hui vos résultats pour 2023. Et on voit que voilà, ça a explosé, et notamment les voyages en vélo. Mais il y a un point aussi très intéressant, c'est que vous annoncez, ça y est, la bourse est fermée, vous pouvez le dire, une offre de rachat d'actions très importante qui porte sur près de 20% du capital de Voyageurs du Monde, 130 millions d'euros. Vous savez que ça n'a pas du tout bonne presse. Hein. Le gouvernement ne veut pas de rachat d'actions. Il y en a eu pour 30 milliards, je crois, dans le CAC 40. Mmh. Il dit augmentez vos salariés, investissez. Pourquoi est-ce que vous faites ça?
Alors, on fait ça parce qu'en fait, pendant le Covid, on était en grande difficulté puisqu'on avait, sur la première année, perdu 85% de notre chiffre d'affaires. Et donc, on avait la chance d'avoir une situation financière très saine. Et donc, on a pu obtenir d'actionnaires qui nous fassent une augmentation de capital pour nous sécuriser.
Oui.
On a augmenté notre capital de 130 millions d'euros. Mmh. Comme par hasard, c'est le même montant que notre achat d'actions. Et puis il se trouve que on a fait quelques acquisitions, en particulier sur le vélo, mais on a eu surtout très vite, à partir de 2022 et encore plus en 2023, des très bons résultats. On a augmenté nos résultats presque du double du plus haut cette année. Et donc du coup, on a eu beaucoup d'argent. On a trop d'argent entre guillemets. On n'a pas de quoi investir autant d'argent. Donc on garde quand même une capacité d'investissement très importante suite à notre achat d'actions, pas loin de 100 millions d'euros qui nous resteront. Mais on a versé des bonus exceptionnels à nos salariés, et puis par ailleurs on les a augmentés.
C'est trop riche, quoi, c'est un problème de riche.
Et donc en fait, c'est pas en contradiction, c'est-à-dire qu'en fait le gouvernement, à mon avis, critique à tort les rachats d'actions. Parce que il y a rachat d'actions bon et puis il y a rachat d'actions mauvais. Le rachat d'actions bon, c'est quand vous avez du cash qui ne vous sert à rien, qui ferait mieux d'être investi par vos actionnaires dans d'autres activités plus productives et plus intéressantes. Et si on est contre le rachat d'actions, on est contre la diminution de capital, on est contre la distribution de dividendes, et donc on est contre les augmentations de capital, parce que quand on a obtenu une augmentation de capital, nous, pendant la période du Covid, de 130 millions d'euros, si on avait dit à nos actionnaires qui nous ont fait la gentillesse de nous suivre dans une période difficile, vous serez taxés le jour où on vous les rendra, vous ne pouvez pas le faire. Et la critique du gouvernement consiste à dire faut investir, faut augmenter les salaires, etc. Nous, on le fait tous les jours. Simplement, là, on a trop d'argent, donc il vaut mieux rendre cet argent à nos actionnaires pour qu'ils le réinvestissent, eux, dans l'outil productif. Donc, encore une fois...
Et puis, vous faites maintenant, parce que du coup, vous n'aurez pas de taxe sur les rachats d'actions, la taxe va arriver, mais elle n'est pas encore arrivée.
Oui, mais on n'avait pas vraiment anticipé ça. Et puis, dans le premier projet du gouvernement, il y a 6-8 mois, ce projet de taxe ne nous aurait pas concernés non plus, parce que c'est pour des sociétés plus grandes que nous. Ceci dit, leur projet va peut-être être modifié. Mais moi, je trouve que là, pour le coup, quand j'entends le président Macron et le gouvernement critiquer de façon aussi violente les rachats d'actions, je trouve que c'est justifié.
Non, mais c'est peut-être pas le cas chez Voyageurs du Monde, mais en même temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des entreprises qui l'ont fait et qui pourraient très bien augmenter. Il y a un problème de pouvoir d'achat en France, notamment des salariés.
Oui, mais c'est pas les mêmes sujets, c'est pas incompatible.
Si c'est le même sujet.
Non, mais il y a plein d'entreprises qui font pas de rachat d'actions et qui augmentent pas bien leurs salariés.
Oui.
Et des entreprises qui font des rachats d'actions et qui augmentent bien leurs salariés. Donc là, on mélange tout, en fait. Il y a des bons rachats d'actions et puis il y a des mauvais. Ça, le gouvernement peut le dire. Mais systématiser...
Les rachats d'actions, c'est quand même fait pour que les actionnaires, non pas les salariés, les actionnaires aient plus d'argent in fine et plus de dividendes.
Non, ils n'ont pas plus d'argent, ils ont plus de pourcentage de capital.
Non,
c'est pas vrai.
On est d'accord.
Un rachat d'actions, quand c'est... D'ailleurs, on le voit bien, il y a des études qui ont été faites, ça fait ni monter le cours ni baisser le cours, c'est normal, parce que le prix qui est proposé proposé, il est au prix du marché.
Alors, tiens, donc, vous proposez combien, une prime
150
de combien
euros. On propose 150 euros. Le dernier cours devait tourner autour de 130. On propose 150 euros. Ça fait une valorisation de l'entreprise à 800 millions d'euros. On a 230 millions d'euros de cash à peu près. On en a 130 de trop. On en gardera 100 pour investir. On aura large, sans parler des bénéfices futurs qu'on va continuer de faire, on aura largement de quoi faire.
Encore une fois, c'est quand même
on rend aux actionnaires
ce capital.
Pardon ?
C'est sur, ça représente 20% du capital.
Ça représente 20% du capital.
C'est énorme.
Oui et non, un peu moins de 20%, hein, parce que 130 divisé par 800, ça fait un peu moins de 20%. Mmh. Mais c'est aussi l'argent qu'on a reçu en plus en capital pendant le Covid. On rend l'argent qu'on a voulu avoir pour se protéger, et il se trouve qu'on a eu des résultats magnifiques. D'ailleurs, le gouvernement a beaucoup contribué pendant la période du Covid à ce qu'on n'aille pas à la catastrophe. Et là, merci le gouvernement, ça clairement. Toutes les aides qui ont été faites pour aider les entreprises ont été absolument remarquables. Mais là, aujourd'hui, on a trop d'argent. Cet argent ne nous sert à rien parce qu'on a eu des très bons résultats, parce qu'on a aussi investi, on a augmenté nos salariés, et donc on le rend à nos actionnaires. Alors, et nos actionnaires, d'ailleurs, ils vont faire ce que demande le gouvernement, c'est-à-dire utiliser cet argent pour le réinvestir. Aujourd'hui, nous, si on garde cet argent, on va le mettre en sicat monétaire. Ça sert à quoi ?
Okay.
Rien.
Oui, oui. Mais alors déjà, Mathias, vous vendez ? Bah, vous, actionnaire, parce que vous êtes trois fondateurs, on va le rappeler.
Nous, on a essentiellement...
Vous, le management, vous vendez ?
Oui, on va en vendre un petit peu. Celles qu'on a en direct sur Voyageurs du Monde, on les vend. Celles qu'on a en action cotées. Mais on est essentiellement actionnaire, nous, de la holding.
Société, la
voilà,
holding.
Dans laquelle on garde nos actions pour la plupart.
Mais qui, elle, vend aussi ?
Qui va vendre un petit peu d'actions aussi.
Oui.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait. Donc, tout à fait. Elle va participer à l'Opra.
Et cette Opra, elle s'ouvre demain.
Elle s'ouvre à partir de demain. Elle se clôture début juin. Je crois que c'est début juin que les actionnaires devront se positionner,
oui,
pour savoir s'ils veulent garder ou s'ils veulent céder. Chacun fait comme il l'entend. Voilà.
Et en même temps, moi, j'ai envie de dire, vous avez des résultats formidables. Vous,
oui,
avez une augmentation du chiffre d'affaires. On va voir ça dans un instant, qui est de l'ordre de, je cherche 45%. Un grand cru, 45%.
Ouais.
Vous regardez les EBITDA, vous regardez le résultat net.
Ouais.
Tout ça, c'est à deux chiffres.
Oui.
Donc, bah, moi, si je suis actionnaire, je reste plutôt actionnaire de Voyageurs du Monde, non ?
Bah, vous pouvez parfaitement. Hein, c'est votre droit le plus strict. Simplement, le prix proposé est quand même assez attractif. Chacun décidera comme il l'entend. On a eu des résultats exceptionnels, c'est vrai, mais attention, il y a une partie de ces résultats exceptionnels qui vient de notre croissance externe. Il y a une partie de ces résultats qui vient d'une année 2023 exceptionnelle en termes de consommation de voyages, parce qu'elle était post-Covid. Et sur 2024, on continue d'être en croissance.
Parce que c'est un petit peu moins
plus modéré,
700 millions de chiffre d'affaires, 693 millions.
Voilà. Mais ce que je veux vous dire, Edwige, pour répondre à votre question, c'est qu'en 2024, on est moins en croissance.
Oui, on va venir.
Notre croissance se réduit.
Un instant sur 2023.
Et surtout, on a un environnement géopolitique qui quand même se complique.
Alors, non, mais c'est ça qui est incroyable, François Riel, c'est que vous êtes en train de nous dire attention, notre société, là, elle va pas bien, ça va être beaucoup plus dur, les temps sont durs, etc. Alors que...
Non, mais on fera pas la croissance de notre chiffre d'affaires et de résultats qu'on a eu en 2023 en 2024.
Ouais.
Ça, c'est clair. On espère bien qu'on fera aussi bien, je n'en sais rien. On fera probablement mieux en chiffre d'affaires, en résultats, j'en suis pas sûr, parce qu'on est dans un environnement géopolitique complexe, l'Ukraine, Israël, voir l'Asie avec Taïwan, et puis surtout on a un effet qui nous pénalise, c'est les Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques,
alors justement,
les,
ouais,
Jeux Olympiques, qu'est-ce que ça génère ? Ça génère des tarifs aériens très élevés l'été, au départ de la France. Et du coup, nos clients qui partent quand même essentiellement l'été, partent moins l'été, et ça nous pénalise. Dernière chose, le délai de réservation qui était assez long l'année dernière, s'est raccourci parce que on est dans un environnement économique qui est plus difficile. Qui est plus difficile pour les agents économiques. Donc du coup, ils achètent des voyages, ils continuent de consommer des voyages, mais ils font plus attention. Donc, on n'est pas dans la même situation en 2024 qu'en 2023. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des moins bons résultats.
Oui, c'est la fin du rattrapage, quoi, grosso modo.
Voilà.
Ouais.
C'est la fin du rattrapage. Alors, il y a trois choses.
2024.
C'est la fin du rattrapage. C'est des conditions économiques perçues par les agents économiques qui sont plus difficiles dans toutes les classes de revenus, y compris les plus aisés. Et la troisième chose, c'est un environnement géopolitique qui est quand même pas évolué tellement dans le bon sens, quoi. Voilà. Maintenant, moi, si vous me demandez est-ce que Voyageurs du Monde ira bien dans les prochaines années, j'en suis convaincu que oui. C'est du long terme. Sur 2024, je suis un peu moins sûr.
Ouais. Donc résumé, Grand Cru 2023, d'accord, on a compris, tout a cartonné, mais maintenant, contexte géopolitique incertain.
Plus compliqué.
Mais en même temps, si on veut aller en Égypte, tout est plein.
Alors, tout est plein chez Voyageurs du Monde, parce qu'on a un bateau exceptionnel, qui a 100 ans d'histoire, qui s'appelle le Simship Soudan, qui est le plus vieux bateau du Nil. Bon, mais, sur l'ensemble des marques du groupe, l'Égypte est en baisse. Parce que le contexte géopolitique a fait baisser l'Égypte, mais a sinistré totalement la Jordanie. Je parle même pas d'Israël, évidemment. Et je dirais tout le monde arabo-musulman a souffert. Vous y rajoutez toute l'Europe de l'Est qui souffre à cause du conflit ukrainien, l'Asie qui souffre parce que c'est plus long et plus cher d'aller en Asie avec les avions européens parce qu'il faut contourner la Russie. Bon bah tout ça fait que il y a une inquiétude économique et géopolitique qui est en ce moment défavorable au voyage. Mais c'est en ce moment.
Et puis il y a juste un point, je voudrais après qu'on parle du vélo quand même, parce que c'est amusant de voir comment vous avez cartonné, et en plus vous avez fait des acquisitions dans ce secteur-là. Les Jeux Olympiques, donc, et puis c'est l'ancien président de l'Office du Tourisme de Paris qui dit ça, Jeux Olympiques, en fait, c'est pas très bon pour vous, donc c'est ça que vous nous disiez à l'instant.
Alors, les Jeux Olympiques, c'est pas très bon pour nous, c'est pas forcément non plus très bon pour la France et Paris touristique pendant les JO, parce que les prix sont très chers, stocks sont faibles, la perception qu'il y a trop de monde et que ça va être trop cher est négative. Néanmoins, les JO, à long terme, ou même à moyen terme, c'est très bon pour Paris et la capitale. Il y a une espèce de JO bashing permanent en ce moment.
Mais les Français,
ça reste
Français,
un événement exceptionnel et qui sera, si on réussit cette cérémonie d'ouverture sur la Seine, avec un rayonnement et une communication exceptionnelle pour Paris et pour la France. Donc les JO, ça peut être pas très bon à court terme, mais ça peut être très bon à long terme pour l'image de la France.
Alors si on regarde les vélos, parce que votre nouvelle activité de voyage à vélo que vous aviez acheté, 16% du chiffre d'affaires du total de Voyageurs du Monde. Donc c'est énorme, parce qu'il y a très peu de temps, là, vous étiez venu nous annoncer que vous vous lanciez dans
et
le vélo.
Et 40% des clients.
Oui, et 40% des clients.
On a à peu près...
C'est incroyable.
On a 250 000 clients maintenant annuels dans le monde. Hein. On a 35% de notre activité qui était à l'étranger, hein, ce n'est pas des Français. Dont 100 000 sur les vélos. Alors les vélos, le vélo, c'est des voyages d'abord bas carbone. C'est des voyages itinérants, où on gère toute votre logistique et vos hébergements. En gros, vous faites des balades à vélo comme vous les feriez à pied, mais on gère toute votre logistique et votre hébergement. On a acheté le leader en vélo en Europe, qui s'appelait Eurofun, pendant le Covid. Et depuis, il a eu une croissance très forte.
C'est impressionnant.
Ce qui explique
ce pourcentage. Et c'est pas qu'en France.
Non, on est présent surtout en Allemagne, en Suisse, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas. On a même un produit qui est très très sympa, qui mélange le vélo et la péniche. Vous faites une balade et vous êtes à vélo, et puis de temps en temps, vous circulez en péniche, vous mettez votre vélo sur la péniche, vous redescendez, vous continuez, etc. On appelle ça bike and barge. Vous voyez, le vélo et la barge.
Alors, maintenant que vous nous avez expliqué que...
Ah, voilà le Simship Soudan, là, qu'on voit en photo.
Oui.
Notre fameux bateau sur le Nil.
Pour ceux qui nous regardent à la télévision. Jean-François Rial, donc là, vous avez beaucoup d'argent, vous voulez donc... rendre 130 millions, si je veux dire.
C'est ça. Exactement le même montant que ce qu'on a eu comme augmentation de capital.
Exactement. Et dans les deux cas, vous étiez venu ici l'annoncer.
Exact.
Maintenant, il vous reste 100 millions, vous nous avez dit, sous le pied pour faire des acquisitions.
Oui.
Quel secteur, où, quelle géographie?
Alors, il y a trois secteurs où on peut faire des acquisitions. Le sur-mesure, l'aventure, le vélo. Déjà sur le vélo, on va en faire plusieurs petites pour compléter un peu notre maillage en Europe. Ça c'est sûr, ça on va le faire dès cette année, mais c'est des toutes petites acquisitions, mais avec un fort potentiel. Je dirais que le vélo est notre axe principal de développement en croissance externe, parce qu'il est bas carbone, il est à la mode, et il est CO2, low cost CO2, hein, comme on dit, donc ça on pousse. Mais on s'interdit absolument pas de faire des acquisitions dans l'aventure ou dans le voyage sur mesure, essentiellement, je dirais, sur les pays anglo-saxons. Ce qui nous intéresse le plus, on a commencé, c'est nous renforcer sur la Grande-Bretagne et sur les États-Unis, parce que c'est de la langue anglaise, que quand vous êtes sur de la langue anglaise, vous touchez de la clientèle dans le monde entier, et qu'on a un potentiel très important. Les deux plus grands marchés du voyage dans le monde, c'est l'Angleterre et l'Allemagne. L'Allemagne, c'est plus compliqué, langue allemande. On va y aller avec la marque Voyageurs du Monde en croissance
interne. Quand vous dites les plus grands pays voyageurs du monde, c'est parce que c'est eux qui voyagent le plus ou on organise le plus de voyages?
C'est eux qui voyagent le plus.
D'accord, c'est eux qui voyagent le plus.
Nous, notre pays clé, c'est bien sûr encore la France.
Hein. Mais nous, on a la France, c'est normal, on voyage en France.
Oui, bien sûr. Mais je dirais que, vous voyez, il y a plus d'Anglais et d'Allemands qui voyagent à l'étranger que d'Américains, par exemple.
D'accord.
Les Américains voyagent très peu à l'étranger. Ils voyagent avec des budgets très élevés, mais ils voyagent très peu. Beaucoup moins que les Français, par exemple. Voyage moins à l'étranger que les Français. Donc les deux pays principaux, c'est l'Allemagne et l'Angleterre. L'Angleterre, on a plutôt décidé de faire de la croissance externe. Et sur l'Allemagne, on a le vélo déjà présent. Et on va faire sur le voyage sur mesure un peu de croissance interne parce qu'on a un grand succès sur le marché suisse. On va commencer par la Suisse alémanique, puis on va aller en Allemagne.
D'accord.
On va y aller.
Donc vous remontez
en 2025.
Le pays où il faut réserver pour cet été, c'est où?
Le pays où il faut réserver pour cet été, c'est, je dirais, il y a des pays qui sont inaccessibles parce que trop demandés, donc faut les éviter.
C'est...
Le Japon, par exemple, c'est un succès fou, la Polynésie, la Tanzanie, etc. Puis il y a des pays un peu plus délaissés, l'Amérique latine, les États-Unis, par exemple, c'est plus délaissé cette année. Ce qui marche très bien cette année, contrairement à l'année dernière, c'est l'Europe. Les voyages en Europe marchent très très bien, alors que l'année dernière c'était plutôt une année long courrier. À chaque fois on a des effets de balancier comme ça.
Voilà. Dernière question, les croisières, parce que vous en faites une sur le Nil, vous pouvez pas développer, je sais pas, genre le Ponant là, puisqu'on parlait tout à l'heure des résultats de Kering, le Ponant qui appartient, donc les bateaux de croisière qui appartiennent au Pinot, ça vous tenterait pas?
Alors on a des croisières fluviales comme celle sur le Nil. On a aussi des croisières polaires avec Grand Nord, Grand Large, qui est une marque de terre d'aventure qui fait un carton là-dessus. Mais je dirais que les croisières classiques de Costa à Ponant correspondent pas complètement à nos clients.
Ouais.
Par exemple, on distribue le Ponant chez Voyageurs du Monde. C'est un des rares produits qu'on distribue. Mais on a 200 clients par an sur le Ponant, ce qui est quand même très faible. Parce que c'est pas l'esprit de nos clients.
Merci Jean-François Rial. Donc l'Opra, ça commence demain. Voilà. Et donc ça va très très mal, Voyageurs du Monde, vous l'avez compris. Voilà, en tous les cas, c'est le message que vous vouliez faire passer, mais vous avez du mal à le faire passer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, le patron cofondateur de Voyageurs du Monde.